Il y a de très nombreuses années, l'humanité a commencé un voyage, loin d'un jardin de perfection et loin du Dieu de la création. Aujourd'hui, en ce dernier grand jour, nous réfléchissons au début de l'éternité, le point de départ de l'infini, pourrait-on dire. Nous avons un aperçu d'une vie sans fin, d'une vie sans souffrance et sans douleur, d'une vie sans mort, dans une paix absolue et complète. On l'appelle le dernier grand jour. Ce n'est pas le dernier de plusieurs grands jours dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? L'histoire de l'humanité n'est pas remplie de plusieurs grands jours. C'est le dernier jour, cependant, d'un voyage qui se terminera ce jour-là. Le dernier jour du voyage de l'humanité, marqué par la douleur, la souffrance et le chagrin, est le premier grand jour d'une nouvelle ère, un nouveau voyage vers l'infini et au-delà. Je vais vous emmener aujourd'hui dans un voyage sur les pas de l'humanité. Nous allons retracer les étapes de ce voyage, de la création de l'homme jusqu'à présent, puis à l'aube de l'éternité. Mais nous allons utiliser une feuille de route simplifiée, simple mais tellement précise. J'aimerais vous demander d'aller à Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 11, nous lisons. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu as toujours été avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Nous pouvons considérer cela comme une parabole sur l'éducation des enfants, ce qui est certainement une facette de l'enseignement du Christ ici. Mais comme tant de paraboles, il y a plus qu'il n'y paraît. Vous voyez, c'est aussi un modèle de l'expérience de Dieu avec l'homme. Revenons à Luc, chapitre 15, et lisons quelques versets au début de la parabole. Nous allons lire à partir du verset 11. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. L'humanité a commencé un voyage similaire. Il y a longtemps, n'est-ce pas? L'humanité a commencé son voyage en Éden il y a 6000 ans. Et comme tout voyage, il a commencé par un petit pas, dans ce cas, un pas qui l'éloignait de Dieu. Allons à Genèse chapitre 3. Lisons le verset 23 vers la fin du récit. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. La décision de l'homme de se rebeller contre son Créateur, son Père, a démarré le voyage. Remarquez attentivement ce qui est dit. Dieu a créé l'homme. Il l'a amené à existence. Il a créé Adam et Ève. Il a créé sa peau, ses os et sa chair, les organes pour pomper son sang et assurer sa respiration. Il lui a donné la capacité de toucher, de goûter, de sentir. Puis il l'a imprégné, pourrait-on dire, du souffle de vie. Comme un père, il a donné la vie à Adam et à Ève. Adam devait hériter de la création de Dieu, le jardin d'Éden, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les troupeaux des champs. Genèse chapitre 1, verset 29. Dieu dit ceci. Voici, je vous donne de toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc Dieu a donné à l'homme la responsabilité d'exercer une domination. Il devait recevoir un héritage. Et tout ce qu'on lui demandait, c'était d'obéir, de se soumettre à l'autorité, de faire ce que Dieu lui avait dit. Dieu savait ce qui était le mieux. Il savait comment prendre soin de cette création. Et il était prêt et capable d'enseigner cette compétence à Adam et à Ève et à la famille de l'homme. Mais Adam, comme toute l'humanité après lui, voulait l'héritage sans l'autorité, la bénédiction sans l'engagement de suivre les règles de la famille établies par le Père. Revenons à Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, verset 12. Regardons à nouveau ce verset. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » En d'autres termes, ce jeune homme ne se souciait pas de l'impact de ses actions ou de son irresponsabilité. Parce qu'en demandant à son père de lui donner sa part d'héritage, il l'obligeait à partager son gagne-pain. En substance, le père devait renoncer à une partie de son gagne-pain et à celui de la famille. En supposant qu'il n'y avait que deux frères et que le frère aîné devait recevoir une double portion, alors il s'agissait d'une portion sur trois. Il demandait et exigeait dans ce sens que son père renonce à un tiers de ses ressources de subsistance. Donc, il ne se souciait pas de l'impact de ses actions. Et cela n'a pas pris plusieurs jours. Nous le voyons ici spécifiquement. Il est dit peu de jours après. Cela n'a pas pris plusieurs jours. Car pour lui, à ce stade, ayant l'héritage, n'ayant aucune intention d'être sous l'autorité de son père, il a décidé qu'il allait partir. Son père aurait-il approuvé l'utilisation qu'il allait faire de l'héritage? Il n'aurait pas approuvé la façon dont il voulait l'utiliser, bien sûr. Il y avait donc des conflits dans la famille. Pas la paix, mais des conflits. Et il est devenu persona non grata, pourrait-on dire, dans sa maison. Et il en fut de même pour le premier homme, Adam. Revenons à Genèse, chapitre 3. Nous y revenons un instant. Genèse, chapitre 3, verset 23. Nous avons déjà lu ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Adam et Ève ont été autorisés à garder, pourrait-on dire, une partie de l'héritage que Dieu avait en réserve pour eux, c'est-à-dire leur propre capacité à cultiver et à jardiner. Mais Dieu a dû les laisser partir. En d'autres termes, il leur a dit, « Vous allez récolter les conséquences de votre décision. Vous n'allez pas recevoir toute votre part. Vous pouvez partir, mais vous n'aurez pas tout ce que j'aurais pu vous donner, tout ce que j'aurais pu vous apprendre. » Et Adam est parti de son propre chef. Il s'est débrouillé seul. Mais cela ne s'est pas bien passé. Immédiatement, il y a eu des conflits. Nous lisons ici, de l'autre côté de la page, au chapitre 4, verset 8. Caïn, le fils d'Adam et Ève, adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous voyons donc qu'il y a eu des conflits immédiatement. Et les querelles ont continué, comme nous le lisons au chapitre 4, verset 19. Nous voyons au verset 19. Lémèque prit deux femmes. Le nom d'une était Ada et l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Puis, la description continue. Verset 23. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Le monde est donc devenu un champ de bataille. Ils avaient des biens, la terre entière avait été donnée à la famille humaine, mais au lieu de construire des cultures de paix et d'harmonie, cette belle terre donnée à l'homme s'est transformée en champ de bataille, une terre pleine de violence et pleine de méchanceté. Genèse 6, verset 5 dit exactement cela. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. En avançant de quelques chapitres jusqu'au chapitre 11, nous voyons que le même scénario se répète après le déluge. La tour de Babel et l'hostilité envers Dieu, envers leur père, celui qui avait donné naissance à la race humaine. Nous voyons dans Genèse, chapitre 11, verset 1, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils se dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » C'est ce que Dieu leur avait dit de faire, désirant qu'ils remplissent la terre. Mais au lieu de cela, nous voyons que la tour de Babel devint un symbole de la futilité de l'effort que l'homme a gaspillé pour défier Dieu. Et comme un enfant qui fait tout à l'opposé de ce que veulent ses parents, nous, en tant qu'humanité, avons une histoire semblable. Vous savez ce que c'est, les enfants, parfois? Si on leur dit de faire ceci, ils feront autre chose, simplement parce que ce sont des enfants. Ils feront ce que tous les enfants font. Parfois, vous devez utiliser un peu de psychologie et dire, « Bon, faites ceci, et ils vont faire autre chose. » Mais cela ne fonctionne pas comme méthode d'enseignement régulière. C'est la nature de l'humanité. Et chez les petits-enfants, on le voit parfois. Ils veulent faire l'opposé de ce qu'on leur dit. C'est ce que l'humanité a fait. Et tout comme le fils prodigue qui a dissipé son bien en vivant dans la débauche, nous découvrons que l'humanité a un héritage et une histoire montrant qu'elle a fait exactement la même chose. Lorsque nous regardons l'histoire humaine au fil du temps, nous voyons par exemple le gaspillage de la vie humaine. Imaginez le nombre de personnes qui ont vécu au cours de l'histoire. Certains diront jusqu'à 100 milliards de personnes. Et si nous estimons à 100 milliards ce nombre de personnes, je ne sais pas s'il y a des chiffres précis à ce sujet, mais j'y ai certainement réfléchi et je me suis demandé combien de ces 100 milliards de personnes, approximativement, disons, ont eu une vie qui s'est terminée par une mort violente, ou ont passé une partie plus ou moins grande de leur vie, ou peut-être même toute leur vie, dans l'esclavage. Ceux qui sont morts dans la famine, ceux qui sont morts dans la souffrance, peut-être en enfantant ou lors d'une maladie, ceux qui ont vécu et sont morts dans la pauvreté ou en prison, Pensez au gaspillage que la race humaine a expérimenté, au gaspillage des vies humaines qui s'est produit tout au long de ce voyage entrepris par Adam, il y a tant d'années, tournant le dos à Dieu et décidant de faire ce que lui voulait et de vivre comme il l'entendait. L'histoire de l'humanité est donc une histoire de gaspillage de la vie humaine. Et qu'en est-il du gaspillage des ressources? Au cours de l'histoire, l'humanité a également gaspillé des ressources. Non seulement des ressources humaines, mais une grande quantité d'autres choses, comme nous le voyons aujourd'hui. Je vais vous lire un extrait d'article publié dans le Los Angeles Times en 2024. Les Américains vivent dans la civilisation la plus gaspilleuse de l'histoire. Cela va bien au-delà de ce que nous mettons au rebut chaque semaine. C'est enraciné dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons et dans la façon dont nous cuisinons. C'est la part la plus importante de ce que vous dépensez en services publics et à la pompe, à l'essence. Les déchets font tellement partie de notre économie, nos produits et notre vie quotidienne qu'il est difficile de le voir clairement ou de le voir tout court. Vous n'y croyez pas? Comment se fait-il que 40% de ce que nous produisons, de ce que nos systèmes agricoles et alimentaires produisent, finissent dans les déchets? Alors, vous pourriez dire, eh bien, on jette 3 fois plus de déchets qu'en 1960. Une grande partie de cette croissance est due à des déchets plastiques. Si omniprésent maintenant que l'on trouve des minuscules morceaux dans les aliments, l'eau, la bière et même dans le cœur, les poumons et les excréments de nouveau-nés. Le Fonds mondial de la nature estime que nous avalons l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine, mais nous continuons à les acheter et à jeter. On trouve ça normal. Voici un autre article de la BBC. Le monde produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux chaque année, assez pour remplir plus de 800 000 piscines olympiques. Par habitant, les États-Unis sont le pire contrevenant car les Américains produisent 3 fois plus de déchets que la moyenne mondiale, incluant le plastique et la nourriture. Et voici une autre statistique tirée de Statista.com. L'article s'intitule « Un monde de déchets » signé par Katharina Woodcourt. C'était il y a 3 ans. Encore une fois, cette statistique de piscine olympique est citée. Dans ce cas, le monde génère plus de 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux chaque année, suffisamment pour tenir, encore une fois, dans plus de 800 000 piscines olympiques. Cela inclut les déchets des entreprises, des bâtiments, des maisons, des cours, des petites entreprises. La Chine produit le plus grand nombre de déchets solides municipaux de tous les pays figurant sur la liste, avec 395 millions de tonnes par an, suivi des États-Unis avec 265 millions de tonnes. La quantité de déchets créés est appelée à augmenter à mesure que la population mondiale continue de croître et, surtout, devient plus riche. Entre 2016 et 2050, les déchets devraient augmenter de 70% selon la Banque mondiale. J'essaie juste de mettre le doigt sur le fait que nous vivons dans un monde de déchets. Et certes, au cours de l'histoire, nous constatons que les villes se sont transformées en décharges, mais rien de comparable à ce que nous voyons dans notre monde aujourd'hui. Qu'en est-il du gaspillage de la guerre? Je cherchais différents articles pour voir comment me concentrer sur ce sujet et je suis tombé sur un éditorial relatif à l'anniversaire du jour J, rapportant des propos écrits par Ernie Pyle, qui était à l'époque un correspondant de guerre. Il a vu le coup de la victoire sur les plages de Normandie. Et voici ce qu'il écrit. « Je me suis promené le long de la côte historique de la Normandie en France, le 16 juin 1944. C'était une belle journée pour se promener au bord de la mer. Des hommes dormaient sur le sable, certains pour toujours. Des hommes flottaient dans l'eau, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient dans l'eau, car ils étaient morts. J'ai marché 1,5 km au bord de l'eau sur notre plage d'invasion longue de plusieurs kilomètres. Il fallait marcher lentement pour voir tout ce qu'il y avait sur cette plage. Les dégâts étaient énormes et surprenants. L'horrible gaspillage et la destruction de la guerre, même en dehors des pertes humaines, ont toujours été une caractéristique des plus marquantes pour ceux qui participent. Tout et n'importe quoi peut être sacrifié, et c'est ce que nous avons fait en Normandie au cours des premières heures. Sur la plage, gisait suffisamment d'hommes et de matériel pour une petite guerre. Ils avaient disparu pour toujours, et nous pouvions nous le permettre. Nous le pouvions parce que nous avions un point d'appui, et derrière nous, il y avait tant de remplacements pour les débris de la plage qu'il était difficile d'en concevoir la totalité. Les hommes et le matériel arrivaient d'Angleterre dans un flot si gigantesque que les pertes de la tête de pont ne semblaient rien du tout, vraiment rien du tout. Dans cet article, il poursuit ses observations encore et encore, mais elles ne mettent en évidence qu'une petite partie du gaspillage. Elles rappellent le gaspillage de la guerre, les vies perdues et tout le matériel qui est créé et utilisé dans le mécanisme de la guerre. Et cela a été le cas depuis le début de l'histoire de l'humanité. Après l'avoir lu, je suis tombé sur un livre, cette fois concernant les rebuts militaires. Une autre référence. Ce livre s'intitule « Déchets militaires, les conséquences inattendues d'une préparation permanente à la guerre ». C'est paru il y a environ 5 ans, en 2019. Voici quelques extraits du livre de Joshua Reno. Il a écrit ceci. « Les guerres sont un gaspillage. Elles dévastent des paysages et des vies et laissent derrière elles des traces destructrices dans la douleur des pertes personnelles, des blessures et des traumatismes, le danger des munitions cachées et non explosées et la violence lente de la contamination toxique. Mais se préparer à une guerre que l'on ne mène jamais est aussi un gaspillage. Même si les coups de feu ne sont jamais tirés, si les bombes ne sont jamais larguées, la préparation permanente à la guerre détourne les ressources naturelles, les forces productives et l'attention politique d'autres préoccupations urgentes. Elle peut également être tout aussi destructive pour la santé humaine et l'environnement. En voici un autre extrait. L'économie de guerre permanente des États-Unis a produit une flotte aéroportée la plus puissante et la plus destructrice du monde. Selon la CIA, les États-Unis ont plus de 13 000 avions militaires en service aujourd'hui, tandis que leurs concurrents, les plus proches, la Russie et la Chine, ont ensemble environ la moitié. Mais les avions ne restent pas prêts au combat indéfiniment. En ce chapitre, je suis le parcours des aéronefs militaires alors qu'ils sont transformés pour la réutilisation, la préservation ou la commémoration. Chacun d'eux suscite des tensions au sujet de ce qu'on peut faire et de ce que ça signifie. Et enfin, un autre extrait. Au moment où j'écris ceci, dans l'atmosphère, à des kilomètres au-dessus de moi, des centaines de millions de minuscules particules artificielles et de plus gros fragments tournent autour de notre planète, la plupart du temps sans être détectés, se déplaçant aussi vite que des balles qui filent à grande vitesse. Il s'agit de débris spatiaux orbitaux, des objets et des matériaux artificiels lancés en orbite et qui n'ont plus raison d'être depuis que l'Union soviétique a lancé un Spoutnik, ce qui a transformé les enjeux de la guerre froide. La guerre est un gaspillage et elle l'a toujours été. En vie perdue, en vie ruinée, en ville et en village laissés sans vie et parfois détruits. La guerre est un gaspillage et elle a été une partie importante de l'expérience humaine depuis le tout début. Qu'en est-il du gaspillage de la politique? La quantité d'argent, de temps et d'efforts consacrés à ce flot sans fin de joutes politiques fait partie de l'existence de l'humanité. Nous le voyons aujourd'hui, mais cela a toujours été la méthode des gouvernements. La façon dont l'humanité s'est gouvernée elle-même a toujours fait partie de la vie humaine et a également été coûteuse de différentes manières. Parfois, nous le voyons de nos jours, juste la somme d'argent qui est consommée dans la publicité et tout ce qui va avec. Mais pensez à l'accumulation des biens et des richesses par des rois qui pouvaient prendre ce qu'ils voulaient ou qui se sont engagés dans la guerre pour détruire, qui ont ensuite accumulé des richesses et les ont gaspillées pour leurs propres désirs et les désirs de ceux qui étaient les nantis, pendant que les autres souffraient. Qu'en est-il du gaspillage de la fausse religion? Si vous voulez regarder quelques-uns des plus grands édifices, regardez ce qui a été construit au nom de la religion. Beaucoup d'argent, de ressources et même de vies humaines ont été dépensées pour construire ces grands édifices religieux et tous ces lieux de culte. Daniel, chapitre 3, je viens d'essayer de vous orienter vers une réflexion sur le gaspillage de l'existence de l'humanité dans quelques domaines différents. Nous avons à peine commencé à gratter la surface. Et pourtant, avec tous ces efforts et cette richesse dépensée, je dirais même gaspillée, qu'est-ce que cela nous a apporté? Qu'est-ce que cela a produit? Si nous allons à Daniel, Daniel, chapitre 3, nous lisons à propos de ces dépenses, de ce modèle de gouvernance. Nous voyons ici, nous allons commencer ici. En fait, revenons en arrière. Laissons cela pour l'instant et allons plutôt à Daniel, chapitre 2. Et voyons le verset 31. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain et ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Le fait est que nous voyons ici une image de tous les grands royaumes qui sont même représentés ici par de l'or, de l'argent et des métaux précieux de grande valeur. Et pourtant, tous ces grands royaumes n'ont pas réussi à apporter la paix et la prospérité sur la terre. Tout cela a été un gâchis. Babylone ou Ninive, certains disent que même les jardins suspendus de Babylone se trouvaient en fait à Ninive. Il n'y a pas si longtemps, j'ai trouvé un article intéressant qui parlait des jardins de Ninive, qui était peut-être un modèle de ce qui s'est passé plus tard à Babylone, ou peut-être simplement une certaine confusion entre les deux. Le fait est que c'est un exemple de plus de la beauté que nous voyons en lisant certaines descriptions anciennes de ces magnifiques jardins. Et pourtant, tous ont disparu. Tout est parti. L'humanité a vécu dans la débauche une existence de gaspillage inutile. Revenons à Luc. Au chapitre 15, à cette parabole. Luc, chapitre 15. Et comme nous l'avons lu précédemment, nous voyons que le jeune homme est décrit dans la seconde moitié du verset 13 comme gaspillant ses biens en vivant dans la débauche. Vous savez, l'humanité a été aveuglée concernant son véritable héritage. Elle ne s'est pas rendue compte que ce qu'elle veut lui a déjà été offert. L'homme veut la paix, mais ne se rend pas compte que son égoïsme et sa rébellion sont ce qui l'empêche d'avoir la paix. Sa luxure et son égocentrisme l'ont asservi. Proverbes chapitre 14. Nous lirons quelques proverbes qui parlent de cela. Proverbes chapitre 14. Nous lirons ces phrases fondamentalement descriptives de ce qu'a été la vie de l'humanité. Proverbes chapitre 14, verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » De l'autre côté, de la page au chapitre 16, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. » Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Proverbes chapitre 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Le cœur de l'homme a donc besoin. Il a besoin de quelque chose de plus. Revenons à Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, encore une fois. Au verset 14, nous lisons « Comment le fils prodigue en est venu à nourrir les porcs, parce qu'il avait gaspillé ce qu'il avait. » Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Tout d'abord, il est intéressant de noter que l'humanité non plus ne sait pas comment briser le cycle. Des temps difficiles viendront, mais l'humanité ne saura pas quoi faire. Dans son cas, il s'est mis au service de quelqu'un pour nourrir les porcs, au lieu de se tourner vers qui? Au lieu de se tourner vers son père. Pour survivre, il a choisi un chemin qui ne l'a pas ramené là où il devait être, mais il a été forcé de se soumettre à une autorité, n'est-ce pas? La triste situation du fils prodigue est un triste miroir de celle de l'humanité, pourrait-on dire. Il y a donc une deuxième moitié à l'histoire. Il y a aussi une seconde moitié au sermon. Nous voyons dans Luc, au chapitre 15, encore le verset 17, « Étant rentré en lui-même, il dit. » Étant rentré en lui-même. Quelle déclaration critique! C'est quelque chose. C'est une déclaration fondamentale et cruciale qui décrit l'appel de Dieu quand on pense à ce qui nous est arrivé. Notre esprit s'est ouvert et nous avons vu la réalité telle qu'elle est. Nous le voyons aussi dans Luc, chapitre 24. Quand Dieu commence à travailler avec quelqu'un, quand il le met sur la voie de sortie de ce cycle de gaspillage, du cycle dans lequel l'humanité a été prise, il ouvre son esprit à la compréhension. Luc, chapitre 24, verset 44. Puis il leur dit, « C'est là que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45, le verset clé. « Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. » Il ouvre leur compréhension. C'est le rôle miraculeux que Dieu exerce auprès des humains. Il leur ouvre l'esprit quand il commence à travailler avec eux pour leur donner de voir au-delà de ce cycle dans lequel ils sont coincés. Acte 2. Nous le voyons dans le cas de ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem. Acte chapitre 2. Nous voyons ici, dans la dernière partie du chapitre, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Et il continue. Je vais aller au cœur de ce qu'il a dit, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il les a défiés et accusés d'avoir mis à mort le Fils de Dieu, d'avoir crucifié celui qui était le Fils de Dieu. Et nous voyons, au verset 36, qu'il répète, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Et demandez-vous pourquoi. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » C'est une attitude très, très différente de celle qu'ils avaient eue 50 jours plus tôt, quand plusieurs d'entre eux, à Jérusalem, disaient « Tuez-le! Tuez-le! » Et les voilà qui disent maintenant, que ferons-nous? Que s'est-il passé dans leur esprit entre ces deux occasions? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait un miracle et il les a appelés. Il a ouvert leur esprit à la compréhension, tout comme il l'avait fait avec ses disciples. Puis au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On pourrait dire que, tout comme le fils prodigue est rentré en lui-même, les humains rentrent en eux-mêmes lorsqu'ils sont prêts à accepter l'appel de Dieu, prêts à s'humilier devant Dieu, qui ouvre nos esprits à la compréhension qu'il donne, et qu'ils se repentent en changeant, non seulement en demandant ce qu'il faut faire, mais en commençant à changer. Eh bien, nous trouvons un autre exemple de cela dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je ne vais pas lire tout le récit, vous pourrez y porter attention plus tard. Nous voyons ici comment Dieu a terrassé Saul, qui est devenu Paul. Au verset 4, il est dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Verset 6, tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Actes chapitre 16. Ce que je souligne ici, c'est le processus par lequel passe le fils prodigue quand il dit, « Étant rentré en lui-même, il a fini par comprendre. Il en est venu à voir la réalité. » Au lieu d'avoir l'esprit obscurci par ses propres convoitises, ses désirs et sa propre rébellion, nous voyons que c'est ainsi que Dieu travaille avec l'humanité. Actes chapitre 16, verset 14. Nous voyons ce que dit le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa. Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Dieu lui a donné de croire, de comprendre. C'est ce que nous voyons. Revenons au fils prodigue et dépensier dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, en lisant le verset 17. Nous voyons qu'il a compris, n'est-ce pas? Il a reconnu sa place dans l'univers. Il était prêt à se soumettre. Il a reconnu ses fautes. Quel passage étonnant si vous y réfléchissez. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. » Vous voyez ce que je veux dire? Comment cela dénote une attitude d'humilité, une volonté de se soumettre à l'autorité? Je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi seulement comme l'un de tes ouvriers. » Il a compris. Il n'est pas devenu amer, découragé ou détruit par la compréhension qui l'a envahi quand il a compris. Il est rentré en lui-même et il a simplement accepté la réalité. Et encore plus étonnant, il a agi en conséquence. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. N'est-ce pas ce qu'est la vraie repentance? Faire demi-tour et aller dans l'autre sens. Quelle aurait pu être la réaction du père? Il y a plusieurs possibilités. Il aurait pu dire, enfin, là tu viens de comprendre. Tu viens d'ouvrir les yeux. Vous savez, il aurait pu agir comme cela et dire, « Désolé, tu as raté ta chance. Il est maintenant trop tard. Je ne veux plus te voir. Je ne te connais plus. je ne veux plus de toi ici. » Il aurait pu dire ça, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, « Tu reviens juste parce que tu as faim », ce qui était vrai. Mais au lieu de cela, il a été ravi de le voir revenir. Nous voyons que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est l'attitude de Dieu notre Père qui est prêt à travailler avec nous, à nous accueillir, pourrait-on dire, malgré nos péchés. Dieu n'est pas là pour nous piéger. Il n'est pas là pour prouver que nous avons tort et qu'il a raison ou que nous devrions obtenir ce que nous méritons. Il suffit de regarder les deux paraboles précédentes. Voyons Luc, chapitre 15, versets 1 à 7. C'est la parabole de la brebis perdue. Verset 4. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? C'est le Dieu que nous servons et que nous aimons. Regardez la parabole suivante, la parabole de la drachme perdue. Il est dit, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voyez-vous, Dieu ne tourne pas le couteau dans la plaie. Verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Dieu ne cherche pas à nous donner tort en disant, « Je vous l'avais bien dit. » Il désire nous épargner et nous sauver comme tout Père normal. C'est inscrit en nous, dans notre chair et dans notre sang. Nous ne voulons pas nous éloigner de nos enfants. Nous ne voulons pas que les conflits nous séparent de nos enfants. Nous voulons l'harmonie. Nous voulons l'unité. Nous voulons la paix. Vous savez, quand la voix d'un de nos enfants détonne, nous avons soif de la solution, pas de le rejeter. N'est-ce pas là le message de ce jour? Dans Ézéchiel 37, allons à Ézéchiel 37. En lisant Ézéchiel 37, nous apprenons que les morts en Israël, au cours de l'histoire, disent « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Verset 11, il me dit « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Prophétise donc et dis-leur « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous aurai fait sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » N'est-ce pas là le message d'aujourd'hui? Quand ils disent « Notre espérance est détruite, nos eaux sont secs, nous sommes perdus », Dieu répond « Non, non, je vais ouvrir vos sépulcres. Je vous ouvrirai les yeux, je placerai mon esprit en vous, vous revivrez. » Nous lisons la même chose dans Apocalypse chapitre 20, n'est-ce pas? Alors que nous nous souvenons à nouveau du plan de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Vous savez, Dieu veut apporter la paix, il veut apporter l'harmonie, il veut apporter une réunification de la famille humaine. Apocalypse 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Pour les 100 milliards de personnes qui ont vécu et sont mortes de toutes les époques, de toutes les cultures, toutes les langues, tous les milieux, toutes les époques, de l'utérus à la chaise berçante, c'est à ce moment-là que l'humanité sera accueillie à nouveau en Dieu et sera disposée dans l'ensemble, nous le croyons, à se placer sous l'autorité de Dieu. C'est le message d'aujourd'hui, le dernier jour de la fête, ce grand jour de la fête dont nous avons entendu parler dans Jean, chapitre 7. Mais il y a un autre personnage dans l'histoire, n'est-ce pas? Et c'est peut-être là ce qui nous concerne. Luc, chapitre 15. Revenons encore à Luc, chapitre 15. Allons au verset 25. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il est ici question du fils aîné. Il faut reconnaître que cette histoire est une parabole, un récit pédagogique. Et les paraboles ne sont pas faites pour correspondre en tout point à ce qu'elles représentent. Il est ici question du fils aîné. Et nous pouvons lire dans la Bible au sujet de notre frère aîné à nous. Ce frère aîné, le premier-né, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons lire que Dieu est très content de son fils bien-aimé, Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 3. Et nous avons différentes analogies concernant le Christ. Il est le sceptre, comme c'est écrit, par exemple, dans Jean 15. Il est notre époux, dans Éphésiens, chapitre 5. Et il est une pierre d'achoppement. Il est une pierre angulaire aussi. Il est la falaise escarpée, pourrait-on dire, comparée au petit caillou qu'est Pierre. Nous savons ce que ferait le Christ en tant que véritable frère aîné. Si nous avons le moindre doute, nous pouvons relire Luc, chapitre 15. Versets 1 à 7, pour voir comment le Christ, en tant que frère aîné, se sentirait et comment il agirait s'il était à la place de ce frère aîné envers celui qui était revenu. Amener un frère à la repentance serait ce qu'il désirerait le plus, comme nous le lisons dans la première partie du chapitre 15 et dans ses paraboles qu'il a enseignées et qu'il a l'habitude d'enseigner. Dans la Genèse, lorsque nous lisons au sujet de Joseph, allons-y pour le voir à la lumière de ce dont je parle aujourd'hui. Genèse chapitre 45, nous lisons à propos de Joseph et de ses frères comment leur chagrin sincère planait au-dessus d'eux comme un nuage. Et quand ils se sont retrouvés, qu'ils ont été réunis, ce n'était pas facile, mais quand ils se sont réunis, il y avait de la joie et une joie profonde du fait qu'ils étaient de nouveau ensemble. Dans Jean, chapitre 17, nous voyons l'amour d'un frère. Je mets l'accent sur ces choses parce que ce que nous lisons dans les Écritures, dans Jean 15, versets 9 à 17, nous montre comment un vrai frère est prêt à donner sa vie, contrairement à ce qu'on voit dans Luc 15, où l'aîné a été contrarié par le retour de son jeune frère. Vous pouvez être sûr que le Christ aurait été un frère qui serait allé chercher ce frère cadet pour le ramener. Mais ce frère aîné est un modèle de l'attitude qu'il ne faut pas avoir. C'est une attitude naturelle, une attitude de ressentiment, une attitude d'irrespect. Le petit frère lui avait laissé tout le travail d'aider le père, n'est-ce pas? C'était compréhensible. Après tout, le petit frère avait tort dans sa façon de faire les choses. Le frère aîné avait bien fait les choses, et pourtant le frère cadet était le bienvenu. C'était tout simplement injuste. Ce n'était pas la justice. J'ai souvent pensé que cela faisait référence aux pharisiens. Ils étaient si justes, vous savez, ils n'avaient aucune patience pour l'injustice de quelqu'un d'autre. Cela pourrait s'appliquer, je suppose. Mais ce frère aîné sert de type à une plus grande échelle. En y réfléchissant, je pense que nous devrions admettre qu'il serait facile pour vous et moi de penser comme le frère aîné, le bon frère qui se permet dans ce cas d'être rancunier et irrespectueux. parce qu'il a gagné le droit d'être comme ça. Parce qu'il a bien fait les choses. Vous savez, si nous avons été fidèles dans l'Église, contre vents et marées, et si nous nous sommes accrochés à la vérité, lorsque d'autres nous ont poignardés dans le dos au fil des ans, nous ont abandonnés, se sont éloignés, lorsque nous avons essayé de faire ce qui est juste, alors que d'autres ne l'ont pas fait, il pourrait être facile d'être comme ce frère aîné. Et parfois, tout ce que nous pouvons dire, c'est « Père, aide-nous à ne pas avoir de ressentiment. Aide-nous à ne pas nous mettre en colère. Aide-nous à ne pas être amer. Aide-nous à vouloir la paix dans la famille, la paix dans notre famille. Quelle Église! Et la paix dans la famille humaine, afin de pouvoir passer outre à toutes les blessures et les douleurs que nous avons endurées. Si nous ne le faisons pas, alors nous introduisons la haine dans la famille, le contraire de la paix. Et pourtant, nous sommes les bons, pourrait-on dire. Mais c'est nous qui introduisons l'amertume, le ressentiment et la haine. Sommes-nous le frère qui méprise le frère rebelle? Nous voyons cette réaction chez les disciples lorsqu'ils ont voulu faire descendre le feu du ciel sur le village qui n'était pas respectueux envers le Christ. Ou nous le voyons quand nous lisons que les disciples ont demandé « Combien de fois dois-je pardonner? 70 fois, 7 fois? » Ça, c'est la mentalité de « Où est-ce que je trace la ligne? Et quand est-ce que c'est correct pour moi d'avoir du ressentiment? Quand est-ce que je peux arrêter de pardonner? » Ça, c'est la mentalité humaine naturelle. Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. C'est, pourrait-on dire, la mentalité des travailleurs ou des vignerons. La justice avant tout. Matthieu, chapitre 20. Lisons ici le verset 11. Je ne vais pas lire toute la parabole, vous pourrez le faire plus tard. Lisons le verset 9 au début de la parabole. Commençons plutôt au verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur? » La justice! Où est la justice ici? Vous savez, le frère aîné recevait encore un héritage à la hauteur de la responsabilité qui était la sienne, cette double portion. Mais l'histoire de Luc 15 nous laisse avec une pensée obsédante concernant son attitude, n'est-ce pas? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Lisons simplement quelques versets dans Luc 15, quand le Père lui dit « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Qu'est-ce qu'a fait le frère aîné? Nous ne le savons pas, l'histoire ne le dit pas, il s'arrête là. C'est un récit pédagogique qui s'arrête là. Comme je l'ai dit, ça nous laisse avec une pensée obsédante, pour ainsi dire, concernant ce qu'il a fait. A-t-il réagi fortement en répliquant « Après tout ce que j'ai fait, voilà comment je suis traité. Pourquoi lui accorde-t-on cette miséricorde? J'en ai assez. » Est-il devenu amer, plein de ressentiment, de colère? Pensez-y, si quelqu'un avait des raisons d'être amer, n'était-ce pas le père plutôt? Il avait sacrifié une partie de son propre gagne-pain, et pourtant il était débordant de joie au retour de son fils. Même si ce qu'il lui avait donné avait disparu, il était ravi du retour de son fils. Tout comme Dieu, notre Père miséricordieux est ravi au moment où chacun de ses fils et de ses filles revient dans sa famille. Que ce soit vous et moi maintenant, quand il ouvre notre esprit, qu'il nous appelle, que nous nous repentons avec joie et que nous nous rapprochons de lui, ou que ce soit ces 100 milliards de personnes ensemble qui reviendront à la vie dans l'avenir et qui représentent en quelque sorte l'humanité, revenant à Dieu, revenant au Père. Le Père est heureux. Il en est très heureux. Et nous? Michée chapitre 4. Durant que vous allez à ce verset, rappelons-nous simplement que Jean chapitre 3 verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il veut que chaque fils prodigue, chaque personne qui a gâché sa vie. Et j'ai expliqué ce concept. Une vie gâchée est une vie de souffrance ou une vie de luxure et de consommation sans fin, de tout ce qui peut être consommé de quelque manière que ce soit. Chaque être humain qui revient à Dieu le réjouit. Cela plaît à Dieu. Michée, chapitre 4, verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 31. C'est là l'amour de Dieu pour nous et pour toute l'humanité. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui est-ce qui porterait une accusation, non seulement contre les élus de Dieu, mais finalement contre tous ceux qui seront ressuscités au temps qui est dépeint par ce jour et qui auront l'occasion de dépasser leur vie gâchée, leur vie pécheresse, en retournant plutôt à Dieu, qui est le Père de tous? Quelle merveilleuse journée ce sera! Et nous n'en voyons qu'un aperçu dans cette parabole du Fils prodigue. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. Commençons à lire au verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est le jour que nous devons attendre avec impatience, mais pas seulement nous qui avons appris à vivre selon les lois de Dieu et essayer de pratiquer ses voies, mais aussi toute l'humanité qui a vécu comme un fils prodigue, pourrait-on dire. Tous ceux, depuis notre ancêtre Abraham, qui ont eu des vies gâchées par le péché, le mal et la souffrance. Mais en attendant ce jour, en lisant cette parabole, nous avons eu un aperçu, juste un aperçu, de la pensée de Dieu au sujet de ces gens. Toute l'humanité revenant à lui avec allégresse et avec joie. Et quelle espérance nous avons en pensant à ce jour où nous concluons la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Que Dieu hâte ce jour, qu'il vienne rapidement.